Non, vous en faites pas une règle. Tandis que Saint-Benoît, oui, c'est une règle. Et sur cette règle, vous voyez, qui est une loi, après la Torah, qui était une loi de l'Ancien Testament, apparaît au bout de plusieurs siècles d'histoire de l'Église, une autre loi. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais que la foi de Jésus nous avait donc libérés de la loi. Eh bien non, une nouvelle loi apparaît. Mais cette loi n'est plus une loi extérieure, une loi donnée par un législateur, une loi donnée par un inspiré. C'est simplement une traduction de ce qui se produit dans le cœur de celui qui s'est humilié, qui s'est englouti, qui s'est désarmé dans les bras de Dieu. Alors, si quelqu'un s'est désarmé dans les bras de Dieu, il y a quelque chose qui s'inscrit dans son cœur, c'est une loi nouvelle. Vous voyez bien que la règle, la loi, une loi chrétienne, une loi de spiritualité, une loi de l'Esprit Saint, c'est une loi qui est inscrite au fond du cœur de celui qui s'est effondré dans les bras de Jésus, dans les bras de l'Esprit Saint, et qui, au fond, est devenu marial. Il est devenu spontanément pauvre. Voilà. Et ce qu'on a vu donc ce matin, c'est d'essayer de regarder, on a essayé d'enlever déjà ce matin une première grosse pierre, parce que pour fonctionner à 170 km à l'heure sur l'autoroute de l'humilité chrétienne, il vaut mieux enlever les grosses pierres. Sinon, on risque un accident terrible. Donc, ce matin, ce qu'on a essayé de regarder, c'est qu'il fallait enlever une très grosse pierre. Il faut se faire, pour Saint Benoît, miséricorde à soi-même. C'est la première chose. Et donc, il faut accepter ses pauvretés. Il faut laisser ses pauvretés remplir notre conscience, notre souffrance, notre... J'aime pas ce mot souffrance parce qu'il fait un petit peu cucu, mais faudrait trouver autre chose. Mais ça fait rien. Notre côté morbide, notre côté insatisfait, notre côté angoissé, notre côté pulsionnel, notre côté un petit peu de peur. Tout ça, il faut accepter que bon, ce soit là. Et à un moment donné, donc ce que nous disions, c'est cela. C'est que cette pauvreté, bon, bah, faut la laisser prendre sa place tranquillement, voir que quelque part elle nous définit, quelque part elle ne nous définit pas. Voyez bien, il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter et se faire miséricorde à soi-même, c'est-à-dire arrêter de fuir. Arrêter de fuir. Arrêter de fuir un problème qu'on a, premièrement, ou deuxième horreur, deuxième manière de très mal gérer une misère que nous avons, arrêter de s'accrocher à ça en faisant un drame. Voilà les deux grandes manières que nous avons vues ce matin, et donc il faut essayer donc de se dégager de ces deux manières stupides de gérer une pauvreté, c'est-à-dire de nous gérer nous-mêmes. Il faut rentrer dans la loi éternelle qui fait que notre cœur est un cœur humain. Et comme notre cœur profondément humain, il est enraciné dans quelque chose, dans un robinet, dans une source, au-delà de laquelle, en deçà, pardon, de laquelle on ne peut pas remonter, mais n'empêche, cette source, c'est l'éternité. C'est ça qui est extraordinaire. La source de notre cœur, c'est l'éternité. Et c'est pour ça que ce qui jaillit tout de suite de notre cœur, j'ai accès au fond de mon cœur, j'ai un accès au fond de mon cœur. Sa source, c'est l'éternité, mais je ne peux pas aller dans l'éternité, mais je peux aller au moins à la source. Et de la source, je peux jaillir dans le temps dans lequel je suis et dans l'instant présent. Voyez bien que pour faire introduire l'instant présent dans l'éternité, c'est pas un mouvement de moi à l'éternité. C'est un instant, c'est un mouvement de mes pauvretés à l'origine même de mon amour, l'origine même de mon cœur, de mon élan initial, immaculé d'amour. Mais pour ça, la porte d'entrée, c'est la pauvreté. J'ai des misères, elles sont comme ça, elles sont pas drôles, mais ça on s'en fiche complètement. Et la loi éternelle, c'est d'accepter de faire un jour ou l'autre une rupture avec tout ce qui est en moi, pulsion, peur, angoisse. Alors, les deux moyens, je m'excuse de revenir sur ce que j'ai dit ce matin, les deux moyens de ne pas faire cette rupture, c'est de me replier sur moi-même. Et puis, de fuir ailleurs. Une rupture de relation. Je ne vais plus avoir de relation. Je commence à en avoir marre, donc je coupe les relations. Pas de parole, pas de sourire, je ne veux rien entendre, etc., etc. Et je ne veux même pas m'entendre moi-même. C'est l'enfant prodigue, vous savez bien. Alors, c'est la recherche de l'autonomie. Et je cherche l'autonomie, je cherche une nouvelle sécurité dans des lieux de lumière plus sombres. La deuxième manière, c'est de m'accrocher à mon problème en disant j'ai un problème. Et comme j'ai ce problème, eh bien, je vais l'amplifier, je vais m'accrocher désespérément à une situation qui est source pour moi de problème. Et je vais m'y accrocher en y pensant tout le temps. Alors du coup, je vais devenir un petit peu égoïste. Et petit à petit, ça se manifeste, vous le savez bien ça, par une vie où finalement, eh ben, on a toujours l'impression que notre vie tourne au tragique et qu'on a drame sur drame et que finalement on vit un drame terrible. Voilà. Voilà, les deux grandes manières. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui est fondamentalement égoïste, c'est-à-dire c'est bien nous. On a la vie d'un drame, alors on n'arrête pas de retirer de notre cœur des amertumes. On a dit un drame terrible. Alors que personne ne vienne nous faire souffrir davantage, hein. J'ai déjà donné. Moi, je commence à en avoir déjà. Donc, s'il vous plaît, vous me laissez tranquille. Si je fais les deux, si je vis comme ça doublement, vous voyez, en me repliant sur moi-même et en endurcissant mon cœur d'une part, en devenant égoïste d'autre part, et en m'accrochant bêtement à mes droits, pas tout, et c'est vrai, ma belle-sœur, elle n'avait pas le droit de faire ça, le bon Dieu n'avait pas le droit de faire ça. Ou alors moi, j'avais pas le droit de faire ça. Encore mieux, n'est-ce pas ? S'accrocher à ces pensées-là, de manière à devenir égoïste, possesseur, jouisseur, dominateur, et puis finalement à transformer ma vie en une vie de drame et de plainte. Alors à ce moment-là, vous voyez, si je suis un petit peu dans ces deux choses-là, c'est le signe que je ne suis pas miséricordieux avec moi-même. Donc la première chose, être miséricordieux avec soi-même, et pour ça, il faut savoir s'arrêter un petit peu, se recueillir, découvrir simplement que tout ce qui m'habite ici plus profondément, que cette émulsion-là dont je viens de parler, c'est une pauvreté qui a une très grande noblesse. Et cette pauvreté qui a une très grande noblesse, elle s'enracine en moi en ce sens que, au départ, et encore aujourd'hui, mais ceci dès le départ, lorsque j'étais tout petit, lorsque j'étais tout pauvre, lorsque j'étais incapable de faire quelconque geste, lorsque mon oui a été en même temps total, lorsque l'animation divine en moi prenait toutes les pores de ma peau et toute l'extension de mon être, c'est-à-dire dans l'instant créateur de mon premier instant de vie dans le sein maternel, il y a eu une grâce que le bon Dieu m'a fait, et il y a eu un regard du bon Dieu sur moi, et en même temps une création de Dieu d'une sainteté invraisemblable, d'une victoire d'amour surtout, d'un oui conquérant, d'une générosité, d'une magnanimité invraisemblable, d'une innocence tout à fait extraordinaire, d'une pureté princière, d'une royauté absolue sur le cosmos, d'un rayonnement. Vous voyez, on a commencé comme ça, vous voyez, ce rayonnement avec toute la création, tous les temps, tous les lieux. C'est extraordinaire comme on a compris dans ce premier instant dans lequel nous avons existé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai compris tout ce qu'avait compris Charlemagne, tout ce qu'avait compris Salomon, tout ce qu'avait compris Isaïe, tout ce qu'avait compris Martin Robin. Il y a eu ce contact avec le pape Jean-Paul II, il y a eu le contact avec... avec la jeunesse ardente, il a tout. C'est vrai, extraordinaire, il y a eu ce contact. Dès l'origine, il n'y a pas eu une connaissance de tout, mais il y a eu une relation vivante et lumineuse avec, et immaculée et transparente avec tout. Tout nous a été donné, que Dieu nous a donné d'exister comme lui, il existe. Et tout de suite après, étant donné que nous étions de la grandeur, avec la grandeur, si vous voulez, avec la fertilité, avec la profondeur, avec l'immensité de l'amour de Dieu, de la lumière de Dieu, du corps de Dieu, sauf que Dieu n'a pas de corps, mais justement nous sommes son corps. Et il y a eu donc une réceptivité immense et prodigieuse vis-à-vis de tout ce qui est ténébreux dans ce monde, vis-à-vis de tout ce qui est mauvais dans ce monde, il faut bien le dire. Et donc nous avons été victimes. Et nous avons été frappés essentiellement et dès le départ dans l'endroit où nous allons avoir le plus d'amour. Et dans l'endroit où le lieu où nous avons été créés avec le plus d'amour. De sorte que les immenses pauvretés qui sont les nôtres et celles qui nous paraissent les plus insurmontables, insupportables, invincibles, sont précisément celles qui ont pour nous l'unique... ne sont pour nous l'unique voie d'accès à notre cœur humain, à notre amour à nous. Et donc il faut aimer cette pauvreté. Et voyez, une pauvreté, c'est quoi ? J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une pauvreté, mais une pauvreté, c'est quand on est malade. Hein. C'est quand on est malade, c'est quand on a des angoisses, par exemple, c'est quand on a... quand on a peur, quand on en a marre, quand on n'a plus aucune force aussi. Ça arrive lorsqu'on a des vices. Et donc je vous ai suggéré ce matin que le vice principal, c'était la paresse. C'était le plus terrible de tous. C'était la paresse. Les paresseux. Waouh. Hein? Waouh. Transformé en mousse de vache. Ça, c'est terrible, ça, c'est ce qui pue le plus. Eh bien, quand on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas très agréable. Demandez à une mousse de vache de voler comme l'aigle. Ça marche pas. Dis, moi, j'y arrive pas. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Vous me mettez dans un édredon, ça va encore. Vous me mettez tout ça. Vous mettez au bord de la mer, hein, sur une chaise longue, toute nue, une crotte toute nue. C'est extraordinaire. C'est ça la spiritualité du monde moderne. Vous mettez devant la télé, ça va, ça rentre. Et l'avantage, c'est que les gens qui sont derrière le poste de télévision, ils ne me sentent pas. Hein? C'est extraordinaire d'être une bouse de vache. C'est très commode, la paresse. Très, très commode. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Et en même temps, vous remarquerez bien que la paresse a quelque chose de très particulier. C'est que quand on est paresseux, on n'arrive pas à se lever. On n'arrive pas à s'y mettre, quoi. Hein, cette espèce de paresse. Vous voyez, Saint Benoît, c'est évidemment la bénédiction, ne peut pas pénétrer dans chez quelqu'un qui est paresseux. La bénédiction de Dieu ne peut pas pénétrer. L'humilité ne peut pas pénétrer chez quelqu'un qui est paresseux. C'est impossible. Mais derrière la paresse, il y a une pauvreté. Et derrière la paresse, la pauvreté qui est là, c'est précisément quelque chose de bon. Parce que cette pauvreté, c'est quelque chose qui nous désarme, qui nous enlève toutes nos forces. Et si on est paresseux, c'est parce qu'on ne veut pas de cette pauvreté-là. Alors, on se réfugie dans la paresse. Ça, c'est une pauvreté dont on veut bien. Mais d'être sans force, on n'aime pas ça. Donc la première chose, dit saint Benoît, c'est qu'il faut faire miséricorde. Il faut être miséricordieux vis-à-vis de soi-même. Et donc découvrir qu'en nous, il y a une fêlure, il y a quelque chose, pour chacun c'est différent, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire, voilà, c'est ça qu'il faut aimer en vous, je veux dire. Bon, chacun a sa fêlure, hein. Et puis de toute façon, c'est pas très compliqué, hein. Et puis vous avez des confesseurs pour expliquer, hein, quelles sont vos fêlures, hein. Et puis si vous n'y arrivez pas avec le confesseur, écoutez, je vais vous dire, vous n'avez qu'à prendre un père spirituel. Et si vous n'avez pas de père spirituel, vous prenez la Bible, ou vous prenez la première épître de Saint-Pierre. Alors là, au moins, si vous prenez la première épître de Saint-Pierre, ça devient clair, n'est-ce pas? Ça devient clair où sont vos pompes, n'est-ce pas? Où est-ce que vous marchez? Bon, allez, je veux quand même vous en lire, parce que la force... Si je ne vous lis pas l'épître de Saint-Pierre, je vais vous parler de l'épître de Saint-Pierre jusqu'à encore pendant 3 ou 4 jours, et puis j'arriverai pas à me dépatouiller de l'épître de Saint-Pierre. Alors, ah ouais. Oh, ça fait rien, c'est pas important, n'importe lequel, vous tapez dans n'importe quel passage de Saint-Pierre. Hein? Allez, un autre passage. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Allez, je prends le chapitre 2 de la deuxième épître de Saint-Pierre au verset 2. Ouais, c'est normal, 2-2-2. Bon. Vous voyez, il y a beaucoup de pauvreté hein, dans le monde, hein, dans notre petit monde qui est à nous, énormément de pauvreté. En effet, beaucoup suivront leur débauche. Et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses en nous, qui sont à la suite courir. Nous sommes en train de courir derrière des débauches. Et la voix de la vérité de notre cœur est blasphémée. À cause de nous, et à cause de ces courses derrière des trucs infâmes, idiotes, inutiles, par cupidité, au moyen de paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas. Parce que si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais qu'il les a mis dans le feu du Tartare. Ah, ça c'est pas drôle, hein, moi je voudrais pas être à la place des anges qui sont... Et livrés aux abîmes des ténèbres où ils sont réservés pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, tout en préservant 8 personnes quand même, dont Noé, héros de grâce et de justice, tandis qu'il a mené le déluge sur un monde d'impies. Si, à titre d'exemple pour les impies du monde futur, il a mis en cendre et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre tout entières. C'est extraordinaire. S'il a délivré Lot, Le juste, rempli de grâce, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels. Car ce juste, rempli de grâce, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste, rempli de grâce, à cause des œuvres iniques qu'il voyait et qu'il entendait autour de lui. C'est que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les hommes impies pour les châtier au jour du jugement. Surtout ceux qui, par convoitise impure, suivent la chair et méprisent la seigneurie de Dieu. Il faut savoir faire une rupture totale, vous voyez, avec cette espèce de vie psychologique où on suit cette espèce de marasme masturbatoire d'une tragicomédie où on refuse de vivre finalement dans son cœur, hein. Son cœur profond. Et justement, son cœur profond, c'est là où on est tout petit, c'est là où on est tout pauvre. S'il y a quelque chose qui nous angoisse, s'il y a quelque chose qui fait qu'on s'arrête, qui fait qu'on est sans force, si on pouvait être miséricordieux avec nous-mêmes, on s'arrêterait un petit peu. C'est ce qu'on fait pendant 3 jours d'ailleurs. On s'arrêterait un petit peu. On se mettrait sur l'herbe, au soleil, en disant ça c'est bien, voilà, je me mets sur l'herbe au soleil. Et je m'arrête, et voilà, et je regarde où est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis. Et si je perçois au fond de moi comme une espèce de splendide béatitude, c'est que je suis complètement à côté de mes pompes. Si je perçois au fond de moi des torrents de lumière, c'est que je suis complètement à côté de mes pompes. Si je perçois au fond de moi la grâce, la présence de Dieu, l'apparition de la Sainte Vierge, c'est que je suis complètement à côté de mes pompes. Je perçois au fond de moi que ça va pas très bien, ça va mal. Et dès que j'ai perçu au fond de moi ce petit grain mauvais, vous voyez, ce petit grain de perturbation, un petit grain ténébreux, quelque chose qui me met dans un mouvement, si vous voulez, corporellement, je crois que c'est facile à repérer, ça nous met dans un mouvement un petit peu centripète, hein, comme ça. On dit, oh, ça pourrait tendance simplement à vous voûter un peu, c'est pas, hein, dire, voilà, ah, très bien, alors, ne vous voûtez pas, restez simplement là, arrêtez-vous, percevez ce moment-là, il y a quelque chose qui fait cela. Vous voyez, un coup de poignard, ah, vous vous rétractez. Un petit coup de poignard. Vous n'avez jamais eu un coup de poignard dans le ventre? Coup de poignard, toc, oh, quelque chose qui se rétracte. Alors, au lieu de regarder la rétractation, regardez simplement la pauvreté qui est en dessous. Voilà. Cette pauvreté qui est en dessous est très importante pour nous. Parce que c'est ça qui va définir quelque part le travail de la vie spirituelle. C'est dans cette pauvreté-là, c'est dans cette terre-là que Dieu avait inscrit, plus exactement, sa bénédiction de créateur. C'est là où c'était inscrit mon innocence divine d'origine. C'est là où, lorsque j'étais à l'âge de 6, 7, 8 ans, c'est là où j'étais d'une parfaite limpidité, transparence, liberté, assurance, espérance, confiance totale sur mon avenir de sainteté jusqu'à la mort. C'est ces zones-là qui n'existent plus. Et qui ont existé et qui m'ont pris complètement. Et comme elle n'existe plus, effectivement, je suis un petit peu donc désarmé. Il faut que je retrouve ces pauvretés-là. Et cette pauvreté-là, voyez bien, elles étaient données. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Elles nous ont été données à la conception. Elles nous ont été données dans l'innocence de l'embryon, dans l'innocence de l'enfant, dans l'innocence du baptême, dans l'innocence de celui qui découvre la loi éternelle au fond de lui, quand il a l'âge de raison, et dans les grands moments de grâce actuels de Dieu, ça a été donné. Mais à chaque fois que ça nous a été donné de cette manière-là, ça nous a été donné de manière prophétique. C'était une prophétie. Le Verbe s'est incarné pour monter sur la croix. Pourquoi est-ce que le Verbe s'est incarné? Pour monter sur la croix. C'était prophétique. Donc, vous voyez, ces grâces-là qui font toute notre richesse, toute notre sainteté, toute notre lumière, toute notre puissance, toute notre identité, toute notre allégresse intérieure, toute notre joie, toute notre grandeur, toute notre magnanimité. Eh bien, justement, c'est ça qui est absent dans la pauvreté qui est la nôtre. Et c'est donc ça qu'il faut aimer. Il faut aimer sa pauvreté. Ça, c'est très important, donc. On ne saura jamais assez le répéter, faire miséricorde à soi-même. Et une fois qu'on fait miséricorde à soi-même, donc je vous le dis concrètement, eh ben, faut s'arrêter. Vous arrêtez une minute ou deux. Vous arrêtez de causer avec les gens, vous bloquez le poste de la télé, vous vous mettez au soleil, vous vous mettez devant le Saint-Sacrement, n'importe, vous allumez une bougie, et vous acceptez que cette pauvreté, cette fois-ci, vous habite, mais alors complètement, qu'elle prenne toute sa place, laissez prendre toute sa place. Voilà. Voyez bien. Vous êtes paresseux, très bien. Alors, arrêtez-vous dans la paresse. Restez allongé si vous voulez, je m'en fous complètement. Et allez chercher dans cette paresse, la source de cette paresse, cette pauvreté immense, ce découragement fondamental, vous voyez, cette espèce de manque de force absolue. Allez trouver cette source de la paresse, c'est votre pauvreté, c'est votre limite, c'est votre iniquité, vous voyez, c'est votre monstruosité, c'est votre ce côté un peu monstrueux, fêlé qui est en vous, n'est-ce pas? Et donc vous allez aimer ça et vous allez l'accepter que ça, c'est là où vous êtes, voyez, parce que c'était prophétiquement, voilà, ce que Dieu a travaillé, il a donné, il a creusé un lit avec des torrents de lumière et d'amour, et puis, à un moment donné, donc, il vous laisse là, et il n'y a plus de torrent d'amour, il n'y a plus qu'un lit qui a été creusé, le lit d'un immense océan, d'un immense torrent vide. Eh bien, faut habiter ça, parce qu'au lieu d'être habité précisément par une innocence divine, naturelle, par une plénitude qui nous a été donnée sans mérite, eh bien, il va falloir que ça soit rempli immédiatement, spontanément et éternellement, cette fois-ci, par la grâce de Dieu, par Jésus, par cette union avec le Christ qui est l'unique source qui doit remplir, j'allais dire, tous mes espaces intérieurs, de Dieu lui-même, et non plus de moi. Et voyez bien que cette pauvreté est très nécessaire. Un, c'est le fruit d'un amour tonitruant de Dieu, et deuxièmement, c'est une prophétie sur sur l'union, c'est une prophétie sur l'union totale que nous aurons avec Dieu. Évidemment, cette pauvreté-là, bon, vous voyez, on s'arrête, on se fait miséricorde à soi-même, et du coup, se faisant miséricorde à soi-même, on finit par aimer d'être dans cet état de désarmement, de dépouillement, d'impuissance. Et tous les résultats, j'allais dire, de nos prières ne marchent pas, tous les résultats de nos actes de réconciliation ne marchent pas, tous les résultats, rien ne marche, c'est extraordinaire. Alors, on est un sujet pauvre. Voilà, et ça c'est très très important. Bon, maintenant, quels sont les autres préliminaires à notre vie pour pouvoir commencer à rentrer dans l'humilité, parce que ça c'était un préliminaire, il y a encore trois autres préliminaires, avant de commencer à atteindre le premier degré d'humilité. Ça c'est très élémentaire ce que je viens de vous dire. S'il y a de la souffrance, génial! Génial! Bon, je suis un... J'ai encore des tentations morbides de ce style. Génial! Il faut encore attendre 5 ans avant de rentrer au couvent. Génial! Oui, ça, pour tout le monde, ça me tient beaucoup. Bon, ça dépend pour qui, mais... Quand quelqu'un est très très pressé, tu sais. Hein? Très très pressé. Vous attendrez 5 ans. Hein? Ça, c'est pas mal. Les autres préliminaires... Pour Saint Benoît, c'est la conversion, le bannissement du murmure, le bannissement de la tristesse, le bannissement de toute dissipation, le bannissement de tous les retards et le bannissement de toute peine intérieure. Ah, alors on va venir là-dessus. Et Saint Benoît, c'est un maître. Hein. Il dit, comment est-ce qu'on va faire pour être enfin un être humain? Ben, jusqu'à maintenant, vous voyez bien qu'on était dans un monde artificiel. Si on n'est pas miséricordieux avec soi-même et qu'on n'aime pas sa immense misère, si on ne découvre pas sa misère, ce que je disais, il faut d'abord la découvrir, la voir, la connaître. La connaître, ça veut dire lui laisser prendre toute sa place. Il faut environ 2 ou 3 minutes, hein, une fois que vous avez repéré une misère, pour qu'elle prenne toute sa place, qu'elle vous envahisse totalement, spirituellement parlant. Puis après, il faut l'aimer, dire « mais c'est merveilleux d'être comme ça », vous voyez. Et une fois, troisièmement, que je suis là, quatrièmement, eh ben, il faut découvrir que c'est ça ma vocation, d'être pauvre. Et de remercier le Seigneur d'être aussi pauvre que ça, de louer le bon Dieu. Parce que là, c'est là que je vois tous les trésors qu'il me prépare à travers cela. Voyez ? Et une fois que je loue et j'unis la bonté, les trésors de Dieu à cette pauvreté immense qui est la mienne, alors à ce moment-là, je peux commencer à le servir à travers cette pauvreté. Voilà donc les 5 étapes que nous avons vues ce matin pour la gestion des pauvretés de fait. Toutes les pauvretés, hein, n'importe lesquelles. Celles que vous êtes moche, je ne suis pas beau, il ne m'aime plus, etc. Bon, je suis malade, hein, j'ai un cancer, c'est pas drôle. Hein. J'ai ma fille qui meurt, hein, qui est morte dans un accident de voiture. Bon, j'arrive pas à être patient, j'arrive pas à être chaste, j'arrive pas à être un saint, j'arrive pas à être content. C'est tout ça. Donc la deuxième condition, c'est qu'il faut convertir ses mœurs. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une vie où on accepte non seulement d'être miséricordieux avec soi-même, mais de découvrir que tout ce qui est visible autour de nous, concrètement, un petit enfant, mon épouse, mon mari, ma mère, ou mes voisins, ou le curé, ben, tous ceux-là qui sont autour de nous, ils ont eux aussi des pauvretés vraiment extraordinaires. Ils ont des pauvretés extraordinaires. Ben, si ma pauvreté est extraordinaire, leur pauvreté est encore plus extraordinaire, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, j'accepte de vivre avec eux. Vous voyez, c'est ça la conversion des mœurs. La conversion des mœurs, c'est que j'accepte de vivre avec d'autres pauvretés que les miennes. Et du coup, je les trouve extraordinaires. J'accepte de voir ces pauvretés, d'aller à la rencontre de ces pauvretés, de les voir, de voir, bon, qu'elles sont là à côté de moi, et que ce n'est pas par hasard qu'elles sont là à côté de moi. J'essaye, au fond, de saisir que Dieu est partout présent. Du coup, j'essaie d'aimer à travers toutes les limites, voyez bien, qui sont autour de moi. C'est ça la conversion. La conversion des mœurs, si on veut bien le regarder, voyez, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut plus juger personne. C'est ça la conversion des mœurs. Donc on respecte les autres. Ce qu'on appelle par exemple la chasteté, qui est le respect d'avoir un cœur chaste. Avoir un cœur chaste, c'est quoi? C'est d'être vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, exactement aussi pauvre, ou aussi riche, si vous voulez, aussi souriant ou aussi impassible, que ce soit quelqu'un qui est avec qui on ait beaucoup de sympathie ou beaucoup d'antipathie. C'est-à-dire que la sympathie et l'antipathie ne changent rien pour nous. C'est ça un cœur chaste. Un cœur chaste ne modifie pas son comportement ou le coup de cœur de son intériorité selon que la personne qui est à côté de moi m'est sympathique ou antipathique. C'est ça un cœur chaste. Un cœur chaste, c'est pas un cœur qui pense qu'à la chair, hein, et au sang, et au truc X. Non, c'est pas ça. C'est autre chose, ça. Il faudrait relire l'Épître de Saint-Pierre pour savoir de quoi il s'agit pour ces trucs-là. Mais n'empêche que ça, un cœur chaste, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est simplement ajusté à la pauvreté de l'autre. Et il voit la richesse, il voit la beauté. Il ne peut pas le voir s'il n'est pas chaste avec lui-même, c'est-à-dire s'il n'aime pas aussi éperdument les richesses que Dieu lui a données et qui sont cachées en dessous de ses pauvretés que les pauvretés elles-mêmes, qui en sont, pour ainsi dire, l'icône. Et toutes les soi-disant richesses qu'on se découvre en nous en disant c'est merveilleux, j'ai réussi mon mariage par exemple, ou etc. Ça, c'est pas tout à fait, faire attention, c'est pas tout à fait juste. C'est dans les mariages, il y a justement un truc où ça fonctionne pas, il faudra le découvrir, il y a une pauvreté, et c'est là-dedans qu'il faut habiter. Et pas ailleurs. Donc il faut se convertir, vous voyez. C'est ça, se convertir. Alors, le signe que nous ne sommes pas convertis quant à nos mœurs, n'est-ce pas ? Alors, c'est très simple. Je vais vous lire. Si Dieu prolonge comme une trêve les jours de notre vie, c'est pour l'amendement de nos péchés, selon cette parole de l'apôtre Romains 2, 14. Ignores-tu que la patience de Dieu est là parce qu'il te convie à la conversion, à la pénitence? Car ce doux Seigneur affirme, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La vie monastique implique cette mort quotidienne à tout ce qui en nous est lien au péché et à tout ce qui nous écarte de l'amour du Christ et de nos frères. Ceci se trouve dans les différents moments où nous nous engloutissons dans le silence, dans la clôture, dans la pauvreté, la nôtre ou celle de celui qui est proche de nous, dans le travail, dans l'obéissance. Il implique donc une mort aux paroles inutiles, aux contacts humains qui ne servent à rien. C'est les contacts humains qui servent à rien. Les contacts humains de ce monde ne servent à rien. Les contacts politiques ne servent à rien. Les contacts médicaux ne servent à rien. Les contacts psychos, machin, ne servent à rien. Les contacts télé ne servent à rien. Les contacts dans les boîtes ne servent à rien non plus. Au désir de posséder, à l'oisiveté, à la volonté propre et à l'exaltation de soi. Le signe que cette conversion n'opère pas, c'est la difficulté extrême que nous avons à nous priver de nourriture. C'est pas mal. Oui. Et le signe encore suprême, c'est tout excès dans la nourriture. Voilà ce que dit Saint Benoît dans la règle 39, dans le numéro, dans la 39e paragraphe de sa règle. Que jamais un moine ne soit surpris d'indigestion. Rien n'est aussi contraire à la vie chrétienne que l'excès de table, qu'on appelle en latin crapula. Les gens crapuleux, vous voyez, extraordinaire. Voilà. Donc il faut se convertir. Et vous voyez bien que le refus de la pauvreté a pour signature la paresse, mais le refus de la conversion a pour signature la concupiscence. On devient crapula. Hein? C'est plus la bouse de vache, c'est le crapaud. Avec des pustules. Et plus on a de pustules, plus on se met les cosmétiques. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un avantage, c'est que ça sent moins mauvais que la bouse de vache. C'est évident. La deuxième, troisième... Alors ça veut dire qu'il faut faire une rupture quand même avec le péché, vous avez bien compris. Il faut accepter... Numéro 1, hein, concrètement, hein, cette histoire de se convertir, il faut accepter le numéro 1, je crois que c'est très simple. Hein. On va faire des faits oratoires, il faut accepter d'être silencieux. D'être silencieux. C'est pas du tout parce qu'on est à une retraite. Hein. C'est tout le temps, hein, je veux dire, c'est quand vous êtes à Montpellier, à Paris, etc. Hein. Ah oui, oui, être silencieux, soyez silencieux. Surtout, surtout, je vous assure, moi c'est un solitaire qui vous le dit, même quand vous êtes seul, soyez silencieux. Même quand vous êtes seul. Oh là là, quand vous êtes seul, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pénible. Et ça soliloque. Et non, je suis sûr que quand c'est seul, c'est à ce moment-là que la langue devient la plus longue. On soliloque. C'est terrible. Les mecs qui soliloquent. Non, mais c'est bourré de gens comme ça dans les hôpitaux psychiatriques. À fond d'oreille, il y en a plein. Allez à Fondorel, ça c'est une cure, c'est extraordinaire. Allez à Fondorel une fois de temps en temps et voyez ce que c'est que des gens solitaires. Ils parlent, tout seuls, ils parlent. Il faut s'interdire absolument, dès que vous êtes seul, de parler, que ce soit soliloqué. Ça, il faut bannir ça. Et dès que vous vous surprenez, hein, à vous parler comme ça, alors que vous êtes tout seul, alors là, il faut être féroce. Il faut prendre, je ne sais pas moi, les instruments de torture les plus cruels. Les plus cruels. Il faut s'interdire de soliloquer. Ça, je vous assure que c'est vrai. Hein. Il ne faut pas parler. Alors vous me direz, oui, mais moi, mon père, je ne parle pas quand je suis seul. Je ne parle pas seulement quand je suis devant la glace. Même quand vous êtes devant la glace. Et je parle pas non plus dans ma tête, comprenez? Évidemment. Oh là là, oui. D'ailleurs, on voit pas très bien la différence. Hein, faut pas parler. Faut pas parler. J'ai pas dit ça. Faut pas parler. Vous voyez, soliloquer. Il faut le silence. Quand on est face au monde, quand on est en train de se balader dans la rue, quand on est dans sa voiture, faut pas parler. Il faut rester silencieux, je veux dire. Vous voyez ? Il faut rester silence. Il faut aimer le silence. Le silence est une forme de pauvreté extraordinaire. Parce que si on refuse ce silence, remarquez bien, est-ce que ce n'est pas un signe, justement, qu'on ne veut pas se convertir ? Puisque la conversion consiste à vivre du Verbe de Dieu. Dieu, dans sa bouche, a exprimé silencieusement un Verbe. et pour empêcher que cette lumière prodigieusement éloquente du Verbe de Dieu en nous soit là, eh ben on parle. Il faut être silencieux. Ça, je crois que c'est une chose très importante. Ça. C'est ça la pénitence, c'est ça la conversion. La conversion, c'est pas toujours ce qu'on pense, voyez bien. Il faut bien sûr être d'abord miséricordieux avec soi-même, mais une fois qu'on est miséricordieux avec soi-même, qu'on aime sa pauvreté et qu'on est prêt à servir Dieu, le premier service de Dieu, c'est de se convertir. Et la première manière concrète de se convertir, c'est de vivre du silence. C'est de produire un acte silencieux. Parce que l'acte silencieux, c'est l'acte le plus habité du monde. C'est un silence toujours habité. Le silence de l'homme est un silence habité. Il est habité par une pauvreté extrême, par une lumière tout à fait extraordinaire. Il faut être silencieux. Ça, je crois que ça, c'est très, très important, hein, le silence. Et puis, à partir de ça, eh ben, bon, très bien, on va essayer, grâce à ce silence, ben, voyez bien que s'il y a le silence, c'est quand même assez extraordinaire, parce que s'il y a quelque chose qui nous habite, voyez, et qui peut être accrocheur par rapport à quelque chose qui est bien ou par rapport à quelque chose qui est mal, on est au-dessus. Et si c'est par rapport à quelque chose qui est bien, eh bien on s'en fiche. Et si c'est par rapport à quelque chose qui est mal, on s'en fiche aussi. Parce que la vie humaine, c'est pas finalement d'être sensible ou au bien ou au mal, c'est d'être sensible à la vocation profonde de ce que nous sommes par rapport à l'éternité divine. Et ça, ça ne peut se saisir que dans une conversion profonde, un silence total. Il ne s'agit pas pour nous de faire du bien ou faire du mal. C'est ça la conversion. Je crois que la conversion, c'est de retrouver son origine et sa fin. Et du coup, à travers le silence, de découvrir au fond de soi la parole de Dieu sur nous. C'est-à-dire ce nom silencieux du Verbe du Père sur nous, à l'intérieur duquel nous avons été créés, notre vocation. Et notre vocation, c'est que nous sommes appelés éternellement à la fin éternelle. Nous sommes appelés à une finalité éternelle. Et ça, vous remarquerez bien que, vous voyez bien que si je n'aime pas ma pauvreté, si je ne m'y installe pas, si je ne remercie pas le bon Dieu pour cette pauvreté extrême et invincible, si je ne suis pas d'accord pour marcher avec ça, et marchant avec ça, si je ne suis pas d'accord pour l'habiter silencieusement et le prolonger par un silence habité, je ne peux pas me mettre en face de ma finalité éternelle. Il n'y a que le silence qui permet ça. C'est pour ça que le silence, voyez bien, est signe de conversion. Et dès qu'on n'est plus silencieux, c'est qu'on est sorti. On est sorti de l'Église, on est sorti des mains de Dieu, on est sorti du cœur, on est sorti dans la débauche. C'est ça la grande débauche, justement. La troisième condition avant de rentrer dans l'humilité. Jusqu'à maintenant, on n'est toujours pas dans l'humilité. Le troisième, c'est que il faut, étant silencieux, ne pas aller n'importe où. Il faut choisir ses lieux, choisir ses moments, choisir. Tout ça, c'est très, très. Ça paraît très difficile de tout ça, mais n'empêche que c'est très intéressant. Parce que c'est des points de repère. Il faut éviter à tout prix, une fois qu'on est silencieux, il faut éviter à tout prix toute situation de murmure. La partie 34 de la règle, 40 de la règle, 41, 53 de la règle. Répète cela, eh bien, avant toute chose, il faut éviter le murmure. Vous savez ce que c'est que le murmure? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le murmure. Ça... Ah, le murmure, ça. Bon, vous voyez, vous avez pas... Non, ben, arrêtez-moi quand vous ne savez pas, sinon je parle dans le vide, je veux dire. C'est pour, que, c'est pour qu'on voit clair. Le murmure, c'est... Oh là là, c'est... Oh, c'est ridicule, j'en ai marre, c'est... Vous voyez, murmure. Le murmure, c'est toujours par rapport aux autorités. Toujours. Oh là là, celui qui est proche de moi a nécessairement autorité sur moi. Alors que d'habitude, on pense que c'est nous qui avons nécessairement autorité sur celui qui est proche de nous. Mais en fait, c'est ceux qui sont proches de nous ont nécessairement autorité sur nous. Mais il y a aussi le curé, je veux dire, il y a la communauté. Une communauté a autorité sur nous. Une paroisse, par exemple, elle a autorité sur nous. Elle a des exigences qui ne paraissent pas du tout conformes à ce que nous, on croit. Mais pardon, elle a autorité sur nous. Un curé, il a autorité sur nous. Je suis désolé, un curé, il a autorité. Il a une pauvreté, très bien, mais je vous signale une chose, c'est qu'il a donné sa vie. Et donc, il est récepteur à un certain nombre de ténèbres qu'il a sur lui, et par conséquent, il dirige la paroisse avec ça. Et si vous murmurez, c'est le signe que vous êtes sans miséricorde pour vous-même. Parce que sinon, vous seriez avec une miséricorde vis-à-vis de l'autorité. Et par conséquent, vous ne murmuriez pas contre lui. Et dès qu'on murmure, c'est très, très mauvais signe. Ah, il y a un nouveau maire à Saint-Saturnin, on murmure contre le nouveau maire. Oh non, ça ne va pas. On murmurait déjà contre l'ancien. Oui, ça c'est certain. Pour des histoires de flotte, franchement. Alors, c'est ridicule. Alors, non, le murmure, il faut bannir le murmure. Avant toute chose. Et dès qu'on voit qu'il y a du murmure, on murmure aussi contre la volonté de Dieu. On murmure, on dit quand même, ma vie n'est pas facile. J'ai fait pourtant 17 neuvaines, dont 3 à Jésus, enfant roi de Prague. Et 2 neuvaines irrésistibles au Sacré-Cœur de Jésus. Sans compter les 4 neuvaines que j'ai su rajouter, neuvaine de l'impossible, à Saint-Rita. Et j'ai rien du tout. Le murmure. Le murmure. Il faut éviter le murmure avant toute chose. Au début... On dit, mais oui, Seigneur va nous aider, on est dans un état de voyez, extérieur, on n'est pas dans la pauvreté, on est dans les futures richesses qu'on va acquérir. Hein? En fait, des neuvaines. Allez, hop, stop, neuvaine, hop, ah, ça c'est une neuvaine très puissante. Hop, hop, en avant. Hein? Oh, une pauvreté, vite, on va prier. Supprimer la pauvreté. Ça va pas, non? Il faut aimer les pauvretés. S'arrêter, faire oraison, rester dans le silence, un silence habité. Et le premier acte de ce silence, eh ben, il se manifeste, j'allais dire, par, évidemment, l'abandon, l'acceptation. Et cette acceptation et cet abandon a son antithèse dans le murmure. Oh là, il faut encore faire la vaisselle, ou je sais pas, mais c'est idiot quelquefois. Hein. Oui, c'est une tentation qui est tout le temps là. Hein. Bon, la quatrième chose à bannir, c'est la tristesse. Alors, dès que vous vous surprenez un petit peu à voir les larmes qui montent, qui sortent, je suis tout à fait d'accord que c'est pas trop désagréable de pleurer. Donc, pleurer un bon coup, je vous le concède, n'est-ce pas ? pleurer un bon coup. Mais je vous en prie, ce serait encore mieux si la fois suivante, vous laissiez la tristesse ne pas se concrétiser en larmes. Et si une tristesse profonde, elle est là, laissez-la monter tranquillement, mais surtout ne pleurez pas. La première fois, pleurez un bon coup, c'est pas, j'ai bien dit. Comme ça, s'il y a des toxines, ça s'en ira. Mais petit à petit, il faut apprendre à gérer ses émotions. Et donc, la première manière de gérer ses émotions, c'est comme pour la paresse. S'il y a une tristesse, c'est qu'il y a un mal qui nous paraît tout à fait invincible. Sinon, ça vous mettrait en colère. Et aussi bien la colère, le murmure est une passion de l'irascible, autant la tristesse est une passion du concupiscible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a arraché le cœur lorsque vous étiez enfant ou adolescent. Jésus est parti, vous voyez dans le mystère de l'ascension, Jésus est parti, mais ça c'est fini, hein, on ne le verra plus. Dieu m'a pris dans sa main et je ne l'ai plus. Enfin, je n'ai plus la même sensation, plus exactement, je ne l'ai plus profondément. Mais l'amour séparant de Dieu fait ça, c'est l'origine de toute tristesse, c'est l'amour séparant de Dieu. Parce que Dieu s'est mis à fond, à flot en nous, et quelque part, ou des gens que nous aimons énormément, nos parents, les grâces de Dieu, et puis il y a une séparation. Pourquoi séparation? Parce qu'elle se cache d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense au fond de nous-mêmes, mais du coup on n'en éprouve plus la même satisfaction. C'est de là que vient la tristesse. La tristesse, c'est une passion du concupiscible. Donc, lorsqu'il y a une tristesse, je vous en supplie, recommençons le processus, arrêtons-nous, laissons la tristesse nous envahir complètement, de manière à repérer pourquoi profondément il y a cette tristesse. Pas qu'est-ce qui a provoqué la nouvelle occasion des larmes, ça on s'en fiche complètement. Mais pourquoi profondément il y a cette tristesse? Essayez de la deviner. Et laissez cette pauvreté donc à nouveau vous envahir et d'aimer cet état dans lequel vous êtes transformé en plaie vivante. Et ça, c'est merveilleux, ça. D'être transformé en plaie vivante, c'est merveilleux parce que c'est la condition de l'homme. D'être ce que Jésus a révélé, si Jésus s'est fait homme, c'est uniquement pour ça, pour qu'il y ait cette plaie béante du coup de lance, et qu'il soit cette plaie vivante. Cette plaie vivante le résume tout entier. Le Fils de l'homme, c'est l'agneau de Dieu, une plaie vivante. Et il sort jaillissant l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Et vous voyez, de la tristesse, il faut éviter de s'attrister, parce que la tristesse, c'est l'aspect négatif de quelque chose de plus positif qu'on appelle l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui fait qu'on est joyeux. Quelqu'un qui n'aime pas obéir sera profondément et toujours radicalement triste. Parce que l'obéissance, c'est quelque chose de très extraordinaire. Vous comprenez bien, ça veut dire quoi l'obéissance? Ça veut dire que je ne vais plus faire quoi que ce soit d'autre que ce qui correspond à la volonté de celui qui est proche de moi. C'est normal, vous comprenez que c'est tout à fait normal. Si j'ai découvert ma pauvreté, qu'elle m'a pris tout entier, et que cette pauvreté est aimée, et qu'elle ne trouve qu'une seule chose, qu'une seule coupe, qu'une seule main pour l'accueillir, c'est-à-dire la présence de Dieu, et qui fait que du coup, je suis serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'on devient serviteur de Dieu. Et que du coup, tous mes actes sont silencieux, c'est-à-dire inexistants. Mes actes intérieurs sont inexistants, inhabités par ma pensée, inhabités par mon problème, inhabités par mes paroles. Si, en plus, les actes des autres ne provoquent pas en moi le murmure, et qu'au contraire, je suis tout abandonné et tout disponible par rapport à eux, lorsque l'amour de Dieu leur inspire de désirer quelque chose, même s'ils ne me le disent pas, et que immédiatement, mon acte concret va consister à réaliser cette chose-là, enlever le couvert, passer un coup de balai, me taire à nouveau, mais cette fois-ci parce que l'autre le désire. Ou n'importe quoi d'autre, voyez, ce n'est plus ma volonté qui agit, c'est la volonté de l'autre qui actue mon cœur profond et tous mes actes. Alors voyez, ça, à ce moment-là, ça bannit toute tristesse. La tristesse, c'est quand je veux faire un acte de volonté propre et que ça ne marche pas. C'est une passion du concupiscible. Et si vous voulez savoir si vous avez un cœur humain, c'est-à-dire un cœur d'homme, un cœur de femme ou un cœur d'enfant, ou un cœur de vieux, comme vous voulez, mais un cœur d'homme, ça ne fait rien, et ben, le signe, c'est ça. Est-ce que vous êtes profondément joyeux? Ou est-ce que vous êtes fondamentalement triste? Si vous êtes profondément joyeux, profondément, je dis bien attention, je ne parle pas de la petite joie et de la petite tristesse, hein, je ne parle pas de ça. Moi. Si profondément vous êtes joyeux, que dès que l'occasion vous est donnée, spontanément, vous voyez, ça va très vite, quelqu'un vous demande quelque chose, vous le faites. Vous voyez? Vous êtes disponible, ça c'est l'anti-murmure, et vous êtes obéissant, ça c'est l'anti-tristesse. Et l'obéissance, eh ben, elle a beaucoup de caractéristiques. Elle doit être, les qualités propres de l'obéissance pour Saint Benoît, elle doit être premièrement sans retard. Dès que j'ai perçu que, évidemment, quelquefois je ne le perçois pas du tout, ça c'est très embêtant, ça prouve que je suis encore dans le murmure. Hein. Mais, parce que vous êtes dans le murmure, vous ne percevez pas du tout le désir des autres. Hein. Et même s'il le crie très très fort, vous ne percevez même pas qu'il vous l'a dit. C'est ça qui est extraordinaire. Et si vous le dites très très fort, trois secondes après, par exemple, « Taisez-vous ! Silence !» Trois secondes après. Extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, cette histoire de commère. Hein. Alors, l'obéissance, c'est sans retard. Les caractéristiques de l'obéissance humaine, de l'obéissance normale, de l'obéissance native de l'obéissance minimum. Elle est immédiate. Obéissance immédiate. Elle est sans retard. Dès que son oreille a entendu, il m'a obéi. Psaume 17, verset 45. Ça, c'est extraordinaire, ça. Saint Benoît dit, cette promptitude devra être telle qu'il n'y ait aucun espace et aucun intervalle entre la parole du supérieur et l'action du disciple. Toutes deux doivent s'accomplir au même instant. Je ne réfléchis même pas. Il dit silence. Silence. Il a dit si et moi je fais silence avant qu'il ait terminé silence. En même temps. Je dis, bon, il m'a dit ça, dans 5 minutes, on va voir, on va discuter, enfin, avec soi-même, on va soliloquer d'abord un peu. L'obéissance est prompte. À ce moment-là, c'est une obéissance humaine. Une obéissance... Deuxièmement, l'obéissance doit être joyeuse, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et oui. En obéissant, en effet, on se donne, et il faut se donner de bon cœur, ce qui exige que l'ordre soit exécuté sans trouble, sans retard, sans tiédeur, sans murmure, sans parole de réticence. L'obéissance doit être surnaturelle. Ça veut dire qu'elle doit être théologale quelque part, voyez. Elle doit rejoindre immédiatement la présence de Dieu. Donc voilà pour la tristesse, voyez. Le quatrième, cinquième obstacle, donc on en était à quoi ? 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième obstacle, c'est la dissipation. Il faut éviter la tristesse, ça ne veut pas du tout dire, bon, bah, du coup, on va être joyeux, on va prendre la guitare, on va chanter, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, tout ça. On va danser sur... un petit peu partout, on va faire des super spectacles, on va faire des processions, on va faire des évangélisations, on va faire des tas de trucs comme ça. Bon, éviter la tristesse, ça ne veut pas dire tomber dans la dissipation, pas du tout. D'ailleurs, souvent, les activités même chrétiennes qui sont un petit peu dissipées sont toujours, lorsqu'elles existent, commandées par l'obéissance. Et sinon, non. Et sinon, c'est toujours très, très temporaire, très court, très accidentel. Accidentel au sens où c'est très secondaire. Ça prend très peu de place dans le temps, et dans la préoccupation, et dans l'organisation. Oui, pourquoi est-ce qu'il faut éviter la dissipation ? Parce que si on obéit joyeusement, ça permet à notre obéissance non seulement d'être immédiate, humaine, prompte, libre, spontanée, pleine, entière et sans murmure, et en même temps joyeuse, mais ça lui permet aussi, donc dans cette cinquième condition, de trouver la présence même de Dieu. Et c'est ainsi que la présence de Dieu unit les pauvretés qui sont les nôtres et les pauvretés de ceux qui sont proches de nous, qui ont autorité sur nous. C'est ainsi que se construit donc l'espace humain et communautaire qui va permettre l'ascension dans les degrés d'humilité. Donc vous voyez bien qu'ici, nous avons les conditions sine qua non pour qu'il y ait une première humilité qui puisse commencer à apparaître. Éviter la dissipation. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on n'évite pas la dissipation, c'est-à-dire qu'on fuit continuellement la présence de Dieu à l'intérieur de l'obéissance ? C'est-à-dire de l'inhabitation de nos actes dans notre cœur humain. Eh bien, ça se mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, au fait qu'on est toujours en retard. Si vous êtes en retard, ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas encore même dans le premier degré d'humilité. Il ne faut pas être en retard. Eh oui, il ne faut pas être négligent, vous voyez, cette espèce de négligence qui fait, oui, on est tout le temps, oh, on verra bien, oh, ben, c'est encore dans 5 minutes. Voilà, ça c'est typique, ça. Oh, c'est encore dans 5 minutes. Comment 5 minutes? Bon, ben ça, oh, il y en a d'autres qui disent, oh, c'est encore dans 2 minutes. Tu vois? Alors, ils vont faire un truc qui dure 10 minutes. C'est incroyable. Alors, ça faut pas, ça. Hein? Ça quand je dis faut pas, vous voyez, il faut pas se forcer. Hein? Mais ça prouve qu'il y a une de ces 5 étapes préliminaires qui n'ont pas été faites. Et par conséquent, tout ce que je fais reste périphérique et puis c'est tout. C'est peut-être une de mes pauvretés, remarquez bien. Mais si c'est une de mes pauvretés, alors à ce moment-là, s'il vous plaît, recueillez-vous un petit peu et voyez que cette pauvreté qui se manifeste de cette manière-là, elle a une source dans une pauvreté qui fait qu'on est toujours à côté de son temps. Et à côté de l'instant présent, et donc à côté de la grâce. Et donc on est dans la périphérie de la grâce, et on n'est pas dans l'instant présent de la grâce. Ce sera une adoration communautaire, c'est-à-dire une adoration spirituelle et vraie. C'est-à-dire une adoration religieuse. Que la religion relie. Le deuxième signe auquel vous voyez que le processus ne s'est pas fait pour pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans l'humilité, c'est ce qu'on appelle, ce que saint Benoît appelle la contention. Et la contention, c'est, si vous voulez, un petit peu ce côté un petit peu rigide. On se force. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse très attention, etc. Il faut que avec mes, je vais essayer de m'en sortir. Je vais essayer de tenir, je vais essayer de maîtriser le truc. J'y arriverai. Le stoïcisme, vous voyez. Ah, t'y es pas arrivé. Tac, allez, un jour de jeûne, pain et eau et rien d'autre. Punition. Oui. Je vais me forcer. Quelquefois, on n'arrive pas à dire son rosaire, son chapelet. Hein, il y en a qui... On n'arrive pas à dire son chapelet. Mais tant mieux! Mais il y en a qui disent, comment ça? Mais la Vierge a dit qu'il fallait dire son chapelet tous les jours. La Vierge l'a dit! Donc je vais me forcer. Alors il y en a qui vont se casser le cerveau. Je vous salue Marie. Se casser le cerveau pour dire je vous salue Marie, pour y arriver. Et ils vont mettre 2-3 heures à essayer de que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Pétard, si t'as pas besoin d'antidépresseur après ça, je veux dire. Ça, c'est la contention, vous voyez, on force. Il faut pas forcer. Faut pas forcer, t'as pas besoin de forcer. Ça coule tout seul. L'humilité, c'est simple. La pauvreté, c'est génial. C'est tout petit, ça passe partout, sans effort. L'obéissance, mais c'est ailé. Ça vole partout. C'est l'ivresse, vous comprenez? Donc s'il y a de la contention, tintin, c'est que tu n'y es pas encore. Et la troisième chose, donc, c'est que c'est les punitions. Alors, qu'on s'inflige des punitions. Alors, s'infliger des punitions, vous voyez, c'est... Mais ça, c'est... Je reconnais que c'est un petit truc du Moyen-Âge. Je préfère laisser ça de côté, n'est-ce pas? Bon, c'est... les punitions de Saint-Benoît, c'est très bien. Donc, je vais laisser les punitions, si vous parlez, bien. Mais simplement, on peut remplacer, on peut transposer, si vous voulez, hein, bien entendu. Il est évident que à partir du moment où on est vraiment dans ces défauts que je viens de vous dire, donc d'être en retard, puisque finalement c'est les seuls qui sont repérables, hein, d'être en retard d'une part, ou d'être trop à la force du poignet, trop dans le stoïcisme, sourire en se forçant un peu, hein. Alors, comment ça va, alors? Aimer en forçant, ça. Ou alors, et puis, être en retard. Ou alors, et pas être silencieux. Vous voyez tous ces petits défauts-là qu'on a vus? Bon. Alors, bon, faut savoir se punir un peu. Voilà. Faut savoir dire, non, ça va pas. Donc, il faut s'infliger une petite peine. Quelqu'un qui refuse de s'infliger quelconque peine. Vous voyez? Bon, par exemple, si tu n'es pas silencieuse pendant une semaine, hein, et si tu es en retard, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, à n'importe quel rendez-vous, ou si, aidez-moi. Oui, aussi, je vois que je veux des trucs, que je suis, comment est-ce qu'on appelle ça, que je rentre dans une espèce d'obstination, vous voyez. C'est facile à voir, l'obstination, c'est quand vous voulez obtenir quelque chose, et alors vous insistez, avec quelqu'un d'autre. Bon, si vous vous repérez ça, infligez-vous une peine, une punition, c'est tout. Bon, la punition, c'est de ranger parfaitement la chambre de votre mari. Si vous êtes marié, c'est ça. Il faut que ce soit parfaitement rangé. Que ce soit propre, impeccable, comme la chambre du Saint-Père au Vatican. Aussi net. Ça, c'est pour les femmes. Mais pour les hommes, bon, il faut s'infliger une punition. Très bien. Et la punition, c'est qu'ils vont accepter de causer avec leur femme. D'accord, c'est pénible. c'est une vraie punition. Ils vont accepter que leur femme parle et qu'ils parlent avec leur femme, parce que l'homme a horreur de ça. L'homme aime beaucoup être avec sa femme, mais il n'aime pas parler avec elle. Donc, une punition. Être avec sa femme, c'est très très bien pour l'homme. Voilà. Mais parler avec sa femme, lui dire ce qu'il a fait dans la journée, lui dire ce qu'il a éprouvé, lui dire quelles ont été ses pensées, ses découvertes, ses lectures, lui dire tout ça, c'est très pénible pour l'homme. Et il faut parler avec sa femme, oui. Et la femme, elle doit ranger la chambre de son mari. Ah, il faut que la chambre soit parfaite. Hein. Il faut que la maison soit impeccable. Regarde ce que fait la Vierge, la Sainte Vierge. La maison de la Sainte Vierge. Vous vous rendez compte, la chambre de Saint Joseph. C'est formidable. Moi, j'aurais voulu me marier avec la Sainte Vierge uniquement à cause de ça. Fantastique. La maison de la Sainte Vierge, c'est l'Immaculée, la maison de Saint-Joseph, je veux dire, la chambre de Saint-Joseph. C'est fantastique, la chambre de Saint-Joseph. Remarquez, il était pauvre, donc elle devait pas passer beaucoup de temps à ranger la chambre. Et lui, il parlait avec Marie. Ah, c'était sans parole, c'était un silencieux, mais Marie savait tout ce qui vivait. Parce qu'il était transparent avec elle, il était avec elle, et c'est pour ça que l'Immaculée le connaissait parfaitement et éprouvait tout ce qu'il éprouvait. Il n'y avait rien de ce qu'il éprouvait qui n'était étranger à l'Immaculée. Ça, c'est vrai, ça. Donc, il faut savoir s'impliquer, se donner des peines, se donner des punitions. Hein? Par exemple, si tu as du mal à obéir, tout le monde a du mal à obéir, pas seulement toi. Tout le monde a du mal à obéir. C'est très difficile d'obéir. C'est évident que c'est difficile d'obéir. C'est facile si on prend cette règle donc, que Saint Benoît nous a dit. Il faut que ce soit immédiat. Et puis, il faut que ce soit allé joyeusement. Et il faut s'y habituer. C'est-à-dire, il faut que toute la journée, on se lève le matin au Père, au Fils, au Saint-Esprit, par Marie, Reine Immaculée, bénissez-moi. Ça veut dire, faites que dès que quelqu'un demandera quelque chose, le patron au bureau, en ailleurs, hop, tout de suite. Et quelqu'un, alors que c'est son boulot, que c'est pas le mien, et qu'il est payé pour ça, que lui, et ça coule douce, et il me demande de faire ça, hop, je lui fais. C'est extraordinaire. C'est ça? Accordez-moi de passer saintement cette journée près de vous, Marie Reine Immaculée, je peux vivre. Allez, tenez-moi fort par la main pour que j'avance au même rythme que vous dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu s'exprime comme ça. Elle s'exprime, un, dans ma pauvreté, deux, dans le silence, trois, dans l'abandon et la disponibilité vis-à-vis des prochains, quatre, dans des actes qui obéissent non pas à mon initiative, mon inspiration, ce que je pense qui est bien, ce que bon Dieu m'a fait découvrir qui était bien. Et du coup, je m'obstine, et c'est le bon Dieu qui m'a fait découvrir. Donc, il faut que tu... tu vois, c'est pas mal. Ça. Alors, à ce moment-là, l'humilité, à ce moment-là, pourra apparaître si on vit comme ça. Vous voyez? Et donc, on va voir... ça fait une heure et demie déjà, je m'excuse. Donc, on va arrêter là, et on va pouvoir attaquer donc cet après-midi, avant le premier degré d'humilité, étant bien entendu, donc... ici, nous avons donc dégagé les plus grosses pierres pour rentrer donc dans l'humilité, dans les 12 degrés d'humilité. Et puis, en même temps, on va demander à Jésus de nous aider à faire que cette retraite que nous faisons, qui est une retraite de recueillement, qui est une retraite de détente intérieure, de repos, enfin, on se met au soleil simplement... On s'élargit un peu et on ne force pas. C'est surtout ça que je voudrais, moi, hein, qu'on ne force pas. Pas de contention. Mais par contre, du coup, on rentre dans un espèce de recueillement, dans un silence, dans son livre, dans sa Bible, dans la prière, et d'ici, la prochaine fois où on se retrouve ici, si vous voulez bien, c'est-à-dire, je ne sais pas quand, à quelle heure ?
4h30.
Ah bon, ben voilà. Eh bien écoutez, puisque vous êtes tous obéissants, que vous avez tous été silencieux, je vous laisse entre 4h et 4h30, sinon ce ne sera pas assez, je vous laisse parler.